88.4.
Il est là.
A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Galère, nous sommes le 9 janvier, c'est la deuxième émission de l'année 19 que nous faisons ensemble. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dominique et Françoise, bien sûr. Et puis, Louise. Je commence par un mot trou de mémoire. Quelques informations sur ce qui se passe à Marseille et qui nous a semblé intéressant. Dès cet après-midi à 15h, vous pouvez aller à la permanence de RESF, une permanence pour les familles et les mineurs isolés au moment de l'établissement qui dure depuis 15 jours du squat de Saint-Just. C'est une bonne chose d'aller prendre un peu des nouvelles. Je passe à vendredi à l'Équitable Café à 18h. C'est Camarade Lune et c'est écrit par Barbara Belzagani qui sera avec Jean-Marc Rouillon et qui a passé bien des années dans les geôles d'Amérique du Sud. Toujours vendredi, cette fois-ci c'est au cinéma Égyptis à 19h30, Les Révoltés. Et c'est un film sur mai 68 et le réalisateur Jacques Kébadian sera là. Tu veux dire quelque chose ?
Non, je j'irai.
Vendredi 19h30.
Ouais. Alors, on passe maintenant à samedi. Nous voilà dans le week-end. Au Molotov à 10h, une assemblée du collectif du 5 novembre pour préparer la suite de la lutte. Et à 14h, ce même collectif qui s'appelle Noailles en colère et collectif du 15-11, troisième assemblée des délogés de tout Marseille. Enfin, le jeudi 10 janvier, ah oui, j'ai oublié, j'aurais dû le dire avant, pas bien à la chronologie, c'est très mal, parce que j'aime bien la chronologie. Moi, vous allez le voir en écoutant tout à l'heure la vie de Wangari Maathai. Il y a 18h30 au local de Solidaire, Yalla, c'est un film sur la Palestine et particulièrement sur les footballeurs palestiniens qui ont du mal à pouvoir sortir de leur prison à ciel ouvert du territoire de Gaza. Enfin, samedi, au Sira, alors là, c'est 50 rue Consolat, et c'est la librairie Transit aussi qui nous dira quelque chose. C'est un syndicaliste brésilien, Herbert Claros, qui fera une conférence. Passons au livre, parce que quand même on est une émission de lecture. Éric Vuillard, que vous connaissez, on vous a lu Juillet, on vous a lu L'Ordre du Jour. Eh bien, il vient de commettre un petit livre chez Actes Sud, La guerre des pauvres, 80 pages, 8,50 €. Je donne tous les détails parce qu'ils ne sont pas sans intérêt. Et il va projeter un regard, c'est vrai, original sur les pauvres. Je ne parlerai pas de monsieur dont on ne dit pas le nom, qui vient de faire paraître Catomine, mais je n'ai pas envie d'en parler parce que je ne veux pas faire comme tous les autres, ne pas parler du livre et parler seulement de lui, parce que ni le livre, j'en ai lu qu'un, ça m'a suffi, ni le personnage ne me sont sympathiques. Je viens quand même de lui consacrer quelques secondes. Un petit livre encore intéressant, paru aux Presses universitaires de France, c'est « Pour ou contre le revenu universel ?» et c'est un travail de groupe qui est fait là. Enfin, dernière annonce, Régis Debray, Angle mort, ce sont les éditions du Cerf. Là aussi, 82 pages et 9 euros. Le précédent, c'était 112 pages, 9,50 euros. C'est une lettre à son fils au moment de se choisir un travail. Alors, il lui donne des conseils de père de famille. On n'est pas habitué du tout à ça avec Régis Debray. Mais après tout, pourquoi pas ? Galère, galère. Je vais maintenant passer à la dernière partie. Là, plutôt le morceau de résistance, c'est un livre traduit de l'anglais de Wangari Maathai. Wangari Maathai, qui est-ce ? Eh bien, et ce livre est sur une autobiographie. Et puisque c'est traduit de l'anglais, je cite la traductrice, on ne le cite jamais assez, c'est Isabelle Taudière. Isabelle Taudière et les éditions, eh bien, les éditions Héloïse d'Ormesson en 2007, donc peu après qu'elle a eu le prix Nobel de la paix. Revenons-en donc à l'auteur. Cette traduction en français, elle apparaît aux éditions Héloïse d'Ormesson. Elle a eu une autre traduction, d'autres traductions en anglais, mais je ne les connais pas. L'auteur, elle est née en 40. Elle a eu donc le prix Nobel de la paix en 2004. Je crois que j'ai dit 2006, je me suis trompée. Elle est décédée en 2011. Tout de suite, on va la laisser parler parce qu'elle parle de sa naissance et de ses racines qui sont pour elle quelque chose de très, très important.
Je suis née le 1er avril 1940 dans le petit village d'Ihité, non loin de Nyeri, capitale de la province centre du Kenya. Cette région des hautes terres, butant sur les contreforts des monts Aberdare et dominée au nord par le mont Kenya, avait également vu naître mes grands-parents et mes parents. C'étaient des paysans de la tribu des Kikuyu, l'une des 42 ethnies du Kenya, et à l'époque, comme aujourd'hui, la plus importante par le nombre. Ils cultivaient un petit lopin de terre et élevaient quelques vaches, chèvres et moutons. Deux semaines après, le début de Mbura Yanyai, la saison des longues pluies, ma mère me mit au monde à la maison, dans une hutte traditionnelle, au mur de terre et de boue séchée, sans eau courante ni électricité. Elle était entourée de quelques cousines, tantes, amies, et de la sage-femme du village qui était venue l'aider. J'étais le troisième enfant et la première fille de la famille, et j'appartenais à cette génération charnière qui eut le privilège de connaître les ultimes vestiges d'un monde ancien, dont la culture, les traditions, les croyances et jusqu'au paysage commençaient inexorablement à disparaître.
Et voilà, voilà dit ce qui fait l'intérêt de ce livre, le fait qu'elle se trouve justement à la césure entre deux générations. Elle va d'ailleurs remonter à ses grands-parents pour expliquer un peu l'histoire du Kenya, l'histoire d'une colonisation et d'une décolonisation. Et on voit là donc le second aspect du livre, c'est qu'elle nous renseigne non seulement sur l'évolution du territoire qui s'abîme avec l'industrialisation, mais il nous renseigne sur les coutumes des Kikuyu. Elle dit que ses arrière-grands-parents n'ont rien connu d'autre que leur village. Ils ne connaissaient même pas d'autres villages. Ils ne connaissaient que les tribus Maasai qui n'étaient pas loin, qui faisaient des descentes chez eux et qui, petit à petit, donc, ont été eux aussi bouffés par la civilisation. Et nous sommes là, nous voilà, elle nous emmène en 1880 avec les premiers Européens. Et c'était encore une évolution.
Mes grands-parents avaient vu arriver les premiers Européens vers 1880. Les missionnaires d'abord, qui, dès qu'ils eurent investi les hautes terres du centre, s'empressèrent d'instruire les indigènes de la vraie religion, leur assurant que Dieu ne résidait pas sur le mont Kenya, mais au ciel, par-delà les nuages. Que ce n'était pas en se prosternant à tout moment devant le sommet qu'on lui rendait hommage, mais à l'église le dimanche. Ce culte dut paraître bien saugrenu aux Kikuyu, mais ils furent pourtant nombreux à s'y rallier, et en l'espace de deux générations à peine, ils en oublièrent leurs propres coutumes et croyances. Les religieux qui, tout au long du XIXe siècle, ont sillonné l'Afrique, ont ouvert la voie à de nombreux explorateurs, aventuriers et autres voyageurs venus chercher fortune en franc-tireur ou envoyés en éclaireur par les nations européennes pour exploiter les richesses naturelles et humaines du continent. Ensuite, marchands et administrateurs coloniaux imposeraient de nouvelles pratiques pour mettre en valeur les ressources de notre pays. Ils chasseraient la faune sauvage, introduiraient une agriculture intensive extrêmement coûteuse et exploiteraient surtout nos forêts primaires, abattant des arbres et procédant à des coupes claires pour replanter des essences commerciales importées de pays lointains. Les terres que nous vénérions tant ont ainsi perdu peu à peu leur caractère sacré pour être pillées et détruites dans l'indifférence des populations locales qui admettaient cet état de fait au nom du progrès.
Voilà comment elle dénonce les méfaits de l'industrialisation et de la colonisation. A remarquer ce qu'elle cite en dernier dans les dégâts qui sont faits, c'est les arbres. Et c'est le sous-titre. Et j'en profite pour dire que le sous-titre du livre de Wong Yarima Atai, son autobiographie, c'est « Celle qui plantait les arbres ». Avec cette façon d'abîmer le terrain, il y a aussi les évolutions qui sont les évolutions sociales. Et elle voit apparaître une seconde forme de nègres. Et ce sont, elles appellent les Itoumi.
Oui, la culture Atomi fut en fait un facteur d'européanisation qui bouleversa de fond en comble le mode de vie des Kikuyu. Tournant le dos aux traditions, ils adoptèrent les vêtements, les parures, les chants, les danses et jusqu'aux habitudes alimentaires des Blancs. La culture du millet fit place à celle du maïs et la bouillie de millet, boisson et aliment préféré des Kikuyu, fut détrônée par le thé, si prisé des Anglais. On ne cuisinait plus dans les pots de terre cuite, mais dans des casseroles en fer blanc. Et les calebasses furent remplacées par des verres et des assiettes. On ne mangeait plus avec les doigts ou des baguettes, mais on apprenait à maîtriser la cuillère et la fourchette. Les vêtements taillés dans des peaux de bête furent remisés en faveur des robes en coton pour les femmes et des shorts et des pantalons pour les hommes.
Alors, elle va faire partie de cette élite privilégiée que si c'était au Congo, le terme employé au Congo, c'était les évolués, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas évolués et il y en avait qui étaient évolués. Et ce qui va être grave, c'est l'apparition de l'argent, de la monnaie. Parce qu'autrefois, c'était le troc, et maintenant, en instaurant l'impôt, les colonisateurs n'entendaient pas être payés en moutons, en chèvres et en poules. Et donc, ils ont... tu veux...
Il
ne
faut pas que tu parles à Dominique, autrement on t'entend pas.
Ah oui, mais je regarde quand même où j'en suis dans mes lectures. Où est-ce que j'en étais? Et donc, l'impôt a instauré le règne de la monnaie. Et à ce moment-là, cela a changé toutes les choses. En même temps, les choses changent dans sa famille parce que elle et les enfants rejoignent leur père et qui est vers 43, quitte le village pour aller chez un patron qui s'appelle Monsieur Mélan. Et il va très bien s'entendre avec son patron. Il faut dire que c'est quelqu'un, le père, qui parle non seulement le Swahili, mais aussi d'autres dialectes du coin. Et puis, il est malin, il est mécanicien, il va être chauffeur de son père. Je n'ai pas dit tout ce qu'il fallait dire sur cette colonisation, parce que elle s'est accompagnée de, on peut dire, c'est le mot qu'on peut employer, de déplacement, de déportation, on a employé le mot, c'est la déportation. Ils ont créé des réserves pour les Kikuyu, et les Kikuyu, ils étaient parqués dans la réserve et dépossédés de leur terre. Plus tard, ça donnera, on verra, ça commence d'ailleurs déjà maintenant, la révolte des Momo. Et elle est donc... elle est donc privilégiée avec son statut de Atomi. Et va arriver la guerre qui va stopper ce moment heureux, parce qu'elle n'est pas bien consciente des problèmes de la colonisation. Elle dit, si on me parlait de discrimination, j'aurais ouvert tout grand mes yeux. Et c'est qu'il y a la guerre et il y a un appel, bien sûr, à combattre aux côtés des Anglais. Et de nombreux Kikuyu y vont. Mais il y a la grand-mère qui n'est pas contente. Elle voudrait sauver son fils et elle passe un moment à le cacher. Mais la pression est telle de la part de l'armée anglaise qu'elle finit, que sa cache est découverte. Il s'en va à la guerre et puis il est tué. Et c'est là qu'il y a une certaine prise de conscience qui se fait. Et elle va, à ce moment-là, elle ne va pas rester auprès de son père qu'elle avait rejoint. Elle va rejoindre son oncle avec les trois filles. Les garçons, eux, ils restent, mais la guerre, les Baomao, va les empêcher, parce qu'on ne circule plus, de rejoindre leur sœur. Elle a là un souvenir du voyage.
Au petit matin, nous avons embarqué dans un autocar bondé de paysans, de commerçants et de villageois, rentrant chez eux après une petite visite en ville. Le chauffeur entassa les sacs, les ballots et les valises sur le toit, les arrima solidement, et quand tout son petit monde fut à bord, il démarra dans un panache de fumée, direction Nyeri. Jusqu'à là, j'avais toujours pensé que le monde se limitait à mon petit horizon, pris en étau entre les hauteurs bordant la vallée du Rift et le lac Nakuru. Lorsque la route franchit la première crête, je découvris avec stupéfaction qu'un autre monde s'étirait au-delà des montagnes, qu'il existait d'autres villages, d'autres villes même. Nous traversâmes ainsi Ndoudouri et, le nez collé à la vitre, je regardais, sans les voir, les paysages défiler. Ma mère me tira de mon hébétude pour me montrer les impressionnantes chutes de Nyahururu, ce qui en swahili signifie « là où l'eau tombe », que les Britanniques avaient rebaptisé les chutes de Samson et qui avaient donné leur nom à la ville voisine. Les pétarades de l'autocar couvraient presque le fracas de la puissante cataracte et j'eus peine à apercevoir les eaux écumantes dégringolées d'une falaise vertigineuse. Puis, au détour d'une dernière épingle à cheveux, nous laissâmes la montagne derrière nous pour redescendre vers une plaine immense, déployant à perte de vue ces paysages variés. Fenêtre baissée, je laissais la brise fraîche me caresser le visage, sans me lasser d'admirer les vastes herbages, les fermes blanches, où paissaient plus de têtes de bétail que je n'en avais jamais vues, et la savane où l'on croisait parfois des troupes de zèbres, de girafes, d'antilopes et quelques buffles. Brimbalant sur la route caoutchouteuse, notre bus soulevait des nuages de poussière, et à chaque nid de poule, nous prions le ciel que nos maigres bagages ne tombent pas du toit.
Voilà, on a un aperçu à la fois sur la beauté des paysages, elle y est sensible, on n'en a pas beaucoup et on est content de pouvoir vous les lire, mais aussi de détails pratiques, elles ont peur pour leurs bagages entassés sur le sommet du car. Elle va faire une halte dans une petite ville de garnison, ce qui permet de se rendre compte de ce que c'était qu'une ville de garnison, avec des maisons bien propres et bien rangées. Et puis, elle va rejoindre le village de Iduri. Et là, elle va trouver une alimentation qui est une alimentation qu'elle se plaît à nous détailler.
Les pois, les haricots, le millet, l'arrowroot et le maïs étaient surtout destinés à notre consommation familiale. Mais depuis son retour de Nakuru, ma mère avait également semé des champs de pyrètre, la seule culture de rapport permise aux paysans noirs. Les plantations de thé et de café, autrement plus lucratives, étaient un monopole des colons blancs. Pour compléter notre alimentation, nous avions également deux vaches, quelques chèvres et des poules. En réalité, c'était surtout pour les enfants que ma mère élevait ces animaux, car, comme tous les Kikuyu, elle était pratiquement végétarienne. Elle ne mangeait de viande que très exceptionnellement et n'aurait pour rien au monde goûté à du gibier. L'idée de consommer de la volaille ou même des œufs, c'était des poussins dans son esprit, lui était insupportable. À tel point qu'elle nous interdisait strictement de faire cuire des animaux dans ses marmites et dans ses casseroles. Mais nous aimions tant mordre de temps en temps une belle cuisse de poulet que nous étions bien obligés de lui désobéir. Nous en profitions dès qu'elle avait le dos tourné en prenant bien soin ensuite de récurer à fond ses peaux avant qu'elles ne rentrent. Il arrivait que nous ne frottions pas assez fort et qu'elles sentent encore l'odeur de la viande. Auquel cas, elles jetaient carrément les ustensiles suspects. Parfois, elles ne se rendaient compte qu'après le repas qu'ils avaient été souillés. Nous avions droit à un bon savon. Mais de guerre lasse, sans doute, elle a fini par accepter de manger avec nous du poulet et des œufs. Et tout compte fait, elle ne trouvait pas si mauvais. Et elle n'a plus mis ses casseroles à la poubelle.
On voit comment évoluent les mœurs de la table. Ce qui, la nourriture, c'est sacrément important. Hein. Un mot sur le pyrètre, c'est une plante qui donne des... qui est un condiment extraordinaire pour la nourriture. Un mot aussi sur les arrowroots. Alors, je me dis, qu'est-ce que c'est? Puis c'est de l'anglais. Je regardais, il semble que ce soit une grosse racine et qui sert maintenant encore à faire une farine blanche très fine, mais qui servait, à mon avis, comme, un peu comme des pommes de terre. Donc.
Oui, du manioc.
Ah oui, c'est le manioc.
Ça ressemble.
Alors, ils mangeaient donc d'une façon assez végétarienne au début, mais ils étaient très contents. Et puis alors, on voit comment la nourriture, petit à petit, change parce que la mère se laisse convaincre par ses enfants qui désobéissent. En fait, c'est pas tant une conviction par parole que le fait que les habitudes de la bouche changent. Un mot sur la mère, elle y revient à plusieurs reprises, mais assez brièvement. Sa mère est quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire, mais elle y est très, très attachée. Elle dit qu'elle a toujours eu une relation privilégiée avec sa mère, qu'elle copiait tous ses gestes, qu'elle la suivait. Elle était la première des filles. Elle la suivait dans tout ce qu'elle faisait. Et sa mère lui avait appris à s'occuper des plantes. Elle lui avait donné un petit carré de terre pour faire son potager. Et elle trouvait beaucoup de plaisir à faire son jardin.
Rien n'est plus agréable que cultiver un champ au crépuscule. À l'heure où le soleil descend sur les hauts plateaux, une lumière dorée irise les crêtes boisées et un souffle d'air frais caresse la terre qui se gorge de rosée du soir. J'éprouvais une immense satisfaction à sarcler et tasser les mottes au pied de mes cultures et j'aurais voulu que le jour dure encore pour pouvoir rester plus longtemps. La terre, l'eau, l'air et le feu mourant du soleil étaient les éléments vitaux qui me rattachaient à ce sol. Il me semblait ne faire qu'une avec ma machette, prolongement naturel de mon bras, et j'étais si absorbée dans mon travail qu'il m'arrivait parfois de ne pas voir la nuit tomber. Je ne me résolvais à rentrer qu'au moment où il faisait si noir que je ne faisais plus la différence entre les mauvaises et les bonnes herbes. Sur le chemin du retour, la brise m'ôtait la fatigue du jour. La lune jetait des filets de lumière qui dessinaient d'étranges ombres dans les arbres et les fossés. Le chemin serpentait par une succession de vallons et de coteaux, franchissant des ravines broussailleuses et des ruisseaux. Je me repérais au bruit de la nature. Quand les sifflements des ruisseaux enflaient en un tonnerre, je savais que la vallée de l'Agora n'était plus très loin et je devinais déjà la cascade qui, tout en bas, allait s'écraser sur les rochers. Je gravissais une dernière colline abrupte et j'étais presque arrivée.
Voilà comment elle apprécie la nature et on voit qu'elle a une vie vraiment très très proche de la nature. Mais sa vie va changer parce que le frère aîné, Emberitu, qui est quelqu'un qui, avec qui elle dit que c'est pas son préféré, c'est un autre qui est son préféré, mais visiblement, il veille sur sa petite sœur et il complote avec la mère et la cousine de l'envoyer à l'école. Il ne lui donne pas son avis et il l'appelle pour lui dire on a décidé de t'envoyer à l'école. Et cette école est à Sainte-Cécile. On voit que c'est une école religieuse, et elle va donc rejoindre sa cousine à cette école. Sa mère n'a que de crainte, c'est qu'on la convertisse au catholicisme, ce qu'elle fera beaucoup plus tard, à l'âge de 25 ans, mais pas quand elle est petite, parce qu'elle a peur de l'influence des bonnes sœurs sur sa fille. Mais ce qui est plus important à cette époque, c'est qu'en 52 éclate la révolte des Momos. Et comme elle dit, c'est une révolte qui date d'il y a longtemps.
En 1952, vers la fin de ma première année de collège, la rébellion indigène qui couvait depuis plusieurs années déjà éclata. La révolte des Mau Mau secourait le pays pendant presque toute la décennie. Fomentée par des personnalités représentatives des tribus Kikuyu, Embu et Meru, elle trouva un écho très favorable auprès des anciens combattants kényans, qui, après avoir défendu les couleurs de l'Union Jack pendant la Seconde Guerre mondiale, s'étaient sentis trahis et floués en rentrant dans leur pays. La couronne ne leur témoignait aucune reconnaissance, tandis qu'elle couvrait d'honneur et de distinction les soldats blancs, allant même jusqu'à leur attribuer des terres, confisquées dans certains cas à ces mêmes soldats indigènes, expropriés manu militari. L'exaspération était donc à son comble. Les origines du mouvement Mau Mau remontent toutefois à une autre trahison. En 1890, le capitaine Frédéric Lugard, élevé par la suite à la dignité de Lord, demanda audience au chef Kikupu Wayaki Wa Inga afin de négocier avec lui l'établissement sur des terres Kikuyu de comptoirs de la Compagnie britannique impériale d'Afrique de l'Est. Ce consortium commercial privé, qui était en fait le fer de lance de la colonisation britannique, était censé faciliter les échanges commerciaux avec l'Ouganda, également sous protectorat de la couronne. Wayaki Wainga accepta, à la condition que les Britanniques ne cherchent pas à s'emparer d'autres terres ou bien Kikuyu. À peine le Garde avait-il scellé le pacte que ces hommes attaquèrent les villages des environs, pillant tout sur leur passage, violant les femmes. Les Kikuyu ripostèrent aussitôt par les armes et résistèrent farouchement jusqu'en 1894, date à laquelle Wayaki fut capturé, livré à l'administration coloniale, qui le fit enterrer vivant. Les Kikuyu ne se sont jamais vraiment remis de cette terrible trahison, et moins encore de la fin humiliante de leur héros. Dans l'esprit Kikuyu, chacun a droit à un toit et a suffisamment d'espace pour assurer sa subsistance. Les propriétaires terriens devaient partager leur domaine avec les paysans sans terre et les autoriser à s'y installer et à les cultiver en attendant qu'ils puissent, à leur tour, acquérir une parcelle. Les gens du pays ne comprenaient pas que les Britanniques, à qui ils avaient provisoirement concédé des terres sous le sceau du serment, reviennent sur leurs paroles et cherchent de surcroît à s'emparer des concessions. Bien que le traité fût oral et non écrit, il avait pour les Kikuyu valeur d'engagement solennel. Les nouveaux arrivants, eux, ne s'encombraient guère de tels principes, et à leurs yeux, une promesse verbale faite à des chefs indigènes ne les obligeait en rien. Ils finirent tout bonnement par accaparer les terres, les partager et les distribuer aux colons, qui commençaient à affluer au Kenya. Ce mode opératoire devint l'un des traits dominants de la présence britannique au Kenya.
Voilà comment elle explique la colonisation. À remarquer, elle fait remonter la prise de conscience des Kikuyu à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale. Or, nous savons, et d'ailleurs notamment pour avoir lu le livre Frère d'Ab, qui présente deux Sénégalais pendant la guerre de 14, que c'est après la guerre de 14 qu'ont commencé, pour l'Afrique de l'Ouest en tout cas, la prise de conscience. À noter aussi, je reviens un peu en arrière avec la machette. Elle dit que la machette était la continuation de son bras. Et cette machette, on voit que pendant la guerre de 14, elle a été utilisée avec ces Sénégalais. Ils partaient, quand ils sortaient de la tranchée à l'assaut des tranchées allemandes, ils avaient leur fusil d'à côté et leur machette au bras droit. Quelque chose qui nous emmène de l'univers charmant du jardin, un univers beaucoup plus dur de la guerre. Et on voit aussi à quel point les colonisateurs, soi-disant il y avait les missionnaires, mais on ne voit pas bien à quoi ils servaient à ce moment-là, sinon à se faire les aides de la colonisation. Quelque chose qui n'est pas écrit sur le papier, et ben ça ne compte pas. C'est une des grandes différences, cette entre les mentalités. Il y en a, la parole donnée, c'est sacré. Il y en a, non, il faut que ce soit écrit, et encore, et encore. Et là, on va voir maintenant comment le conflit va atteindre la famille. C'est une autobiographie, ne l'oublions pas. Et elle raconte comment, dans la famille, ça a été vécu.
Le conflit déchirait également les familles, et la mienne ne faisait pas exception. Je n'ai jamais entendu la moindre discussion politique à la maison, mais j'étais assez grande pour comprendre qu'il y avait de sérieux différends. Mon père, qui vouait le plus grand respect à M. Nélan et bénéficiait de toute sa confiance, était plutôt partisan du statu quo, ce qui lui valait les rancœurs d'un certain nombre de parents proches, plus ou moins, des partisans des Mau Mau, qui l'avaient catalogué comme un collaborateur et l'aurait volontiers passé par les armes. Mon père craignait d'ailleurs tant ce type de représailles qu'il dut quitter provisoirement son kraal, préférant passer ses nuits dans la propriété protégée de M. Nélan. Celui-ci avait pour sa part le droit de porter une arme pour se défendre au cas où la guérilla lancerait un raid sur sa ferme. L'atmosphère n'était pas beaucoup plus sereine à Nyeri, où ma mère a été agressée en pleine nuit par un groupe d'hommes qui lui mirent un couteau sous la gorge et la menacèrent. Elle crut que sa dernière heure avait sonné. Elle s'en tira en fait avec une petite balafre sans gravité, mais en resta traumatisée jusqu'à la fin de ses jours. Dans l'obscurité, elle n'avait pas pu identifier ses assaillants, mais elle les soupçonnait fort d'être des Mau Mau. Elle devait en fait apprendre, après l'indépendance, que cette descente musclée avait été organisée par un cousin éloigné qui profitait de la terreur ambiante pour régler des comptes personnels. En l'attaquant, elle, c'était en fait mon père qu'il voulait faire payer. Elle ne s'est jamais remise de l'idée que quelqu'un de sa propre famille puisse lui vouloir tant de mal. Ce type de vengeance mesquine a malheureusement touché énormément de familles, portant un coup fatal à la cohésion clanique et sociale.
Voilà, on voit comment là, c'est différent dans une grande propriété tenue, celle qui est tenue par M. Mélan, et comme c'est différent dans les villages, et comme on peut attribuer au Mau Mau quelque chose qui est plutôt attribué à une vieille haine familiale. Mais cependant, hein, on le sait, la répression a été féroce, mais les Mau Mau n'ont pas non plus été indulgents avec leurs colonisateurs. Alors, nous arrivons à la fin de ses études au collège, et elle rêve, elle ne veut pas du tout être, pour une jeune fille, même évoluée, pour parler comme au Congo, il n'y avait pas beaucoup, même quand on avait fait des études et qu'on était comme à l'une bonne élève, eh bien, on pouvait être ou infirmière ou secrétaire, et elle ne tenait pas du tout, ou institutrice aussi, elle ne tenait pas du tout à faire ces rôles-là, et elle rêve d'aller à l'université de Makerere, en Ouganda, et pour faire des études scientifiques, parce que c'est ce qui lui plaît. Mais en fait, ça ne sera pas Makerere, elle va être aux USA, elle va aller aux USA, parce qu'elle fait partie d'un contingent de jeunes filles qui, avec le programme Kennedy, ont pu rejoindre les USA, avoir une bourse, et parce qu'il y avait un accord, un contrat entre le Kenya indépendant et les USA et Arab Boys. C'était Arab Boys, oui, je ne me trompe pas. Et là, elle dit qu'aux USA, elle a vécu comme une bonne sœur. Elle dit, je prends conscience que j'ai vécu comme une bonne sœur. Et notamment, elle a aucun souci de la guerre du Vietnam. Ça lui passe au-dessus. Et un épisode que je patiente un peu, Dominique, un épisode que je note, son patron de laboratoire est quelqu'un qui fait partie de la nation de l'islam. Et il l'invite à une conférence, elle est complètement affolée d'entendre des choses qui ne correspondent pas du tout à sa notion de la religion, et du coup elle se convertit au catholicisme. Mais le patron l'interroge et lui dit « mais tu sais, il faut connaître l'islam, tu ne le connais pas ». Et en même temps qu'il lui a fait sentir un danger, eh bien, il lui fait sentir qu'il faut s'occuper d'autre chose que ce qu'on lui a appris chez les sœurs. Voilà, j'en ai fini pour cette anecdote. Et elle fait le bilan à la fin de ses études de ce que sont que les USA.
Les gens ont généralement des États-Unis l'image d'un pays immense, puissant et plein d'assurance. Et d'un peuple, en particulier dans les grandes villes, agressif et arrogant. Par-delà ces clichés, j'avais découvert un aspect bien plus intéressant de l'Amérique. Le pays est une immense mécanique composée d'une série de petits systèmes spécialisés, de l'administration à l'éducation, en passant par l'agriculture et les transports. Et quoi qu'il arrive, que ce soit un ouragan, un scandale politique ou une crise économique, rien ne peut déstabiliser cette énorme machine, car ses rouages ne s'enrayent jamais, mais continuent de tourner imperturbablement. C'est peut-être à cela que l'Amérique doit son esprit de persévérance, son sérieux et son côté visionnaire. Le pays semble savoir où il va et il y va, sans état d'âme. Un pays où, si l'on parvient à trouver sa place, on peut être très bien traité par les Américains, qui sont des gens fondamentalement généreux. Mais, revers de la médaille, il faut être à leur hauteur, tenace, novateur, solide. Et il faut avancer, évoluer sans cesse, car avec ou sans vous, la machine continue de tourner.
Voilà, nous avons, c'est le tournant de son existence. Je n'ai peut-être pas assez à citer sur certains détails, j'y reviendrai tout à l'heure, de son séjour aux USA. Et on va mettre de la musique pour manifester la grande césure dans son existence, que j'ai oublié de souligner. Sur son séjour aux USA, c'est le côté autobiographique là que je mets en valeur. Si elle a été heureuse, et si elle s'est bien adaptée, elle a été heureuse dans les campus, c'est parce qu'elle s'est fait une amie qui, comme elle, était boursière et qui faisait des études tout en arrivant du Kenya. Et puis, elle dit en riant que certains étudiants noirs qui étaient évolués voulaient... C'était proposé de les dégrossir et qu'elles ont remercié en disant non, non. Enfin, la voilà de retour au pays et elle dit que c'était extraordinaire au moment de l'indépendance, de se sentir dans un pays qui avait pris son indépendance. Elle oublie complètement qu'elle était du côté des colons, mais complètement. Et elle se voit se vouer au développement du pays. Nous sommes en 65. Et elle est nommée dans une... Elle espérait faire une autre thèse et on lui propose de travailler sur des sauterelles. Elle n'est pas très contente, mais elle y va. Et quand elle se présente au directeur du département, on lui dit « Ah, mais votre poste a été pris ». Elle est extrêmement déçue, mais elle se débrouille, elle ne se décourage pas, elle va chercher partout, c'est très long, dit-elle, un autre poste, et elle finit par trouver quelque chose dans un laboratoire de vétérinaire. Et là, elle est Elle est donc professeure, mais ce département, ça, elle a de bonnes relations avec les étudiants, mais les étudiants se méfient un peu d'elle quand même.
J'aimais beaucoup travailler avec les étudiants de première année. En entrant à l'université, ils étaient jeunes, débordants d'enthousiasme, d'impatience, d'ambition et se destinaient à de longues études. Au début, j'avais essentiellement des garçons dans mes classes et mes rapports n'étaient pas toujours faciles avec eux. Ils avaient du mal à admettre que je puisse être qualifiée pour leur enseigner l'anatomie. Non seulement j'étais une femme, mais à 25 ans, je n'étais pas beaucoup plus âgée qu'eux. Ils essayaient parfois de me taquiner, me demandant sur un ton mi-figue mi-raisin si j'avais vraiment une maîtrise de biologie. Je les remettais en place, mais si j'étais tout à fait consciente de ma valeur, je savais qu'au fond d'eux-mêmes, ils doutaient de mes capacités. Je parvins toutefois à m'imposer et à les faire travailler sérieusement, leur rappelant qu'une mauvaise note, qu'elle vienne d'un homme ou d'une femme, compterait tout autant dans leur moyenne. Il n'en fallut pas davantage pour les rendre à de meilleurs sentiments.
Voilà comment elle se comporte avec ses étudiants. Et on remarque qu'aucune remarque ne l'atteint. Elle est persuadée de sa valeur et elle se défend très bien. Et son patron de laboratoire va l'envoyer à Munich parce qu'elle sait manier les microscopes. Et là, il s'agit d'apprendre à manier un microscope électronique. Et à ce moment-là, aussi, autre couronnement, elle va se marier. Et pendant qu'elle était à Munich, son fiancé, sa patientée, il s'appelle Mwangi, et elle est décidée à être une femme heureuse et une femme qui revêt le vêtement de l'africanité. Parce que, il faut le savoir, elle s'était mal vue, très mal vue, qu'une femme fasse des études et soit scientifique. Et ainsi, donc, elle dit que pour complaire à la mentalité dominante et pour ne pas faire d'ombre à son mari, elle abandonne les vêtements occidentaux et elle prend les vêtements africains qu'elle n'a plus, d'ailleurs, depuis plus quitté. Mais un autre événement va la marquer terriblement, c'est l'assassinat de Mboya, qui était un proche du président. Et à ce moment-là, le président va durcir toute sa politique. Il va avoir une politique de répression. Cependant, grâce à son ami Vert, elle l'appelle Vert, c'est une abréviation, elle ne va pas avoir peur de dénoncer les contrats, parce que figurez-vous que les femmes des professeurs d'université, elles n'avaient pas le droit d'avoir un salaire, parce que leur mari devait les nourrir. Alors elles ne se laissent pas faire avec ces contrats.
Je protestais très officiellement auprès des autorités contre ces pratiques inacceptables. Elles dataient d'une époque révolue, où aucune femme, aussi qualifiée fût-elle, ne venait travailler dans les colonies. Depuis, la situation des femmes avait beaucoup évolué, et il était grand temps de remédier à cette discrimination en accordant aux femmes les mêmes contrats que les hommes. Cette revendication nous semblait si naturelle que ni Vert ni moi n'aurions imaginé devoir nous battre pour faire valoir nos droits. La cause était pourtant loin d'être gagnée. Notre premier entretien avec les responsables de l'université donna le ton. Vous êtes mariés, un salaire de base vous suffit largement, votre mari bénéficie déjà de toutes les prestations sociales dans son entreprise, c'est à lui de vous en faire profiter, et si ce n'est pas le cas, tant pis pour vous. Tant d'arrogance nous horripila. Ces hommes refusaient d'admettre qu'une femme puisse avoir une carrière à part entière et en vivre sans avoir à quémander l'aide de son mari. Furieuse, je leur volais dans les plumes. « Ce n'est pas mon mari qui m'aide à enseigner, que je sache.
» On voit bien ce que ça a été que sa colère, à savoir aussi que son mari va divorcer. Alors, le divorce sera prononcé à 7 ans et elle va se retrouver sans rien du tout, bien qu'elle soit maître de conférences. Et c'est alors que va se passer une autre transformation dans sa vie. Vous voyez que je passe rapidement sur le divorce, bien que ça a été dépensé épuisant pour elle. et où elle a perdu beaucoup d'argent, mais elle va se trouver une autre raison de vivre. En allant faire des prélèvements, elle se rend compte, pour son laboratoire, elle se rend compte de l'érosion du sol. Et à ce moment-là, elle est aussi un membre du NCWK, c'est-à-dire des femmes modernes du Kenya. Et c'est là qu'elle va se rendre compte de ce qui se passe. Il faut une solution. Et la solution, eh ben, ce sera de planter des arbres.
Lors d'un séminaire organisé par le NCWK, une scientifique présenta une étude qu'elle avait menée sur les enfants de la province du Centre qui, concluait-elle, souffraient de maladies liées à des carences alimentaires. Ce fut pour moi un terrible choc. Je connaissais très bien cette région pour y avoir vécu et c'était dans ma jeunesse l'une des plus fertiles du pays. Mais les temps avaient changé. Beaucoup de paysans avaient renoncé à leur culture vivrière, reconverti leurs terres en plantations de thé et du café pour répondre à la demande du marché international. Du coup, faute de produits de la ferme, les mères donnaient à leurs enfants des aliments transformés, tels que le pain blanc, la farine de maïs, le riz blanc, riches en hydrates de carbone, mais pauvres en vitamines, en protéines ou en minéraux. Ces produits étaient d'autant plus séduisants qu'ils cuisaient plus vite que les céréales vivrières ou que les tubercules de mon enfance. Et du fait de la déforestation, on manquait aussi de bois pour cuisiner. Donc à défaut, les femmes glanaient dans les champs des combustibles moins efficaces, comme les rafles ou les calots de maïs. Mais selon notre conférencière, cette pénurie de bois de chauffe était directement responsable de la malnutrition, car elle s'était traduite par un changement de régime alimentaire chez les enfants, et ceux-ci, ainsi que les personnes âgées, en faisaient les frais.
Et voilà comment elle va prendre conscience et elle va trouver comment faire, c'est planter des arbres.
J'avais analysé les problèmes, compris leurs origines. Il restait à trouver des solutions. La tâche était titanesque, bien entendu, mais ce genre de défi me plaisait. Je suis par nature optimiste, une optimiste impénitente, et ma formation de scientifique, alliée à mon séjour en Amérique, m'avait appris qu'il vaut mieux se concentrer sur ce qui peut être fait que de se morfondre sur des fatalités. Je savais qu'il fallait commencer quelque part par des gestes simples, à une échelle dérisoire peut-être. Je n'eus pratiquement pas à réfléchir. La réponse s'imposa spontanément. Planter des arbres. Mais oui, bien sûr, les arbres sont au cœur de la vie. Ils fourniraient aux femmes le combustible à volonté pour cuire les aliments nourrissants, du bois pour tailler des piquets et clôturer les champs, du fourrage pour les bêtes. Hommes et bétail trouveraient sous leur feuillage un agréable ombrage et les racines préserveraient les sources et consolideraient les terrains. Des arbres feraient revenir les oiseaux et toute une faune disparue qui rendrait à la terre sa vitalité. Il fallait donc reboiser à grande échelle. Mais qui replanterait des arbres par milliers ? Les femmes, bien entendu. C'est de cette idée simple qu'est né le mouvement de la ceinture verte, désormais connu dans le monde entier sous le nom de GBM, acronyme anglais du Green Belt Movement. Son succès n'est pas totalement le fruit du hasard. Cette initiative était dans l'air du temps, coïncidait avec l'essor des mouvements féministes et s'inscrivait dans la droite ligne de la conférence de Mexico qui avait décrété les années 1975 à 1985, première décennie de la femme. Elle devait également donner un tour tout à fait inattendu à ma vie. Si j'avais choisi un sujet autre que les arbres, ma proposition aurait peut-être échoué. Je me serais alors consacrée à mon métier d'enseignante et de chercheuse, et je coulerais des jours paisibles de retraite. Mais il m'aurait manqué cette vraie passion des arbres.
Voilà, la passion des arbres. Et elle va se heurter dans son travail, parce qu'en même temps que la passion des arbres, comme le chômage monte, eh bien, elle a l'idée de faire des jardins pour les chômeurs. C'est-à-dire que les chômeurs sont employés pour s'occuper des jardins. Mais il semble que les grands jardins des gens riches, eh bien, les gens riches, ils veulent pas de chômeurs dans leurs jardins. Et les chômeurs, du coup, restent chômeurs. Autre chose aussi, elle essaye de faire un projet EnviroCare, C'est une pépinière qu'elle place à Nairobi, mais la pépinière échoue. Elle ne se décroche pas pour autant. Et on la voit à la foire internationale de Nairobi. Et les difficultés avec les hommes, mais des particulières cette fois-ci, vont recommencer.
Ah oui, les rencontres avec les hommes ne se passaient pas toujours très bien. Les sylviculteurs comprenaient mal que je tienne tant à apprendre à des paysannes illettrées à planter des arbres. C'est un métier.
Sylviculteurs, ah oui. Les cultivants des forêts. Hein.
Oui, ceux qui savent. Enfin, ouais. ceux qui disent qu'ils savent. Et donc, ils disent, c'est un métier. Il vous faut des professionnels pour ça et des diplômés. Ce n'est pas pour rien que nous faisons des années d'études. Je savais surtout que les gens du métier avaient le chic pour rendre les choses, enfin, de plus en plus compliquées. Et devant leur public captif, ils s'appesantissaient à plaisir sur les notions de déclivité du terrain, d'angle d'incidence du rayonnement solaire, de profondeur de semis, de composition biochimique des sols. Ils en rajoutaient sur tous les outils. Et pour réussir une pépinière, bien sûr, ils disaient que tout était compliqué. Donc, les pauvres femmes n'y comprenaient goutte, alors qu'elles n'avaient pas besoin d'autant de science.
Alors là, on peut considérer que c'est un peu d'obscurantisme, mais n'empêche qu'elle a raison.
Oui, elle dit « Je n'étais pas d'accord avec le discours des forestiers. Il faut peut-être avoir fait de longues études pour décortiquer la composition biochimique d'un végétal, mais je restais persuadée qu'il suffisait de donner à ces femmes quelques conseils de base pour la phase la plus délicate du démarrage des plants, et après quoi creuser un trou dans la terre, y transplanter une pousse, l'arroser, la soigner, c'est à la portée de n'importe qui. » Comme de bien entendu, les femmes déployèrent des trésors d'inventivité avec très peu de moyens. Certaines faisaient leurs semis à même la terre, d'autres utilisaient des tessons de peau de terre cuite qu'elles plaçaient en hauteur pour les protéger des poules et des chèvres. D'autres encore perçaient le fond de vieilles marmites ou de boîtes de conserve pour pouvoir arroser délicatement les pousses. J'encourageais toutes ces improvisations heureuses et engageais les femmes à rester en permanence sur le qui-vive pour trouver de nouvelles façons de faire sans attendre une quelconque évaluation officielle.
Voilà. Elle va déployer aussi des trésors de force de conviction et de capacité de mobilisation pour défendre le parc d'Uhuru. Le parc de Uhuru, c'est un grand parc. Elle dit qu'il est comparable à Hyde Park je cherche un autre nom et il m'échappe. Et elle apprend par un étudiant qui a entendu ses parents proches du pouvoir en parler qu'on médite d'y construire un très grand ensemble avec une tour où seront les locaux du canot, le parti au pouvoir, un grand journal favorable au pouvoir, plusieurs supermarchés et des habitations. Et ce parc est comme un poumon vert au centre de Nairobi. Et il s'appelle le Parc de la Liberté, dont ce nom de Uhuru, c'est l'agenda d'Uhuru. Elle se donne beaucoup de mal pour alerter tout le monde. Elle écrit d'abord au président de la République, évidemment, qui s'est pourtant déclaré très, très écolo. Le Kenya, c'est le premier pays, comme tu me le faisais remarquer, qui a interdit les sacs en matière plastique. Et elle écrit à tous les ministères, elle écrit aux associations, elle va trouver le délégué du Commonwealth au Kenya. Enfin, elle fait un battage terrible et tant et si bien que on l'accuse. Elle a encore un procès sur le dos après le procès qu'elle avait eu au moment de son divorce. Et dans la chambre, il y a un homme qui se déchaîne, un député qui se déchaîne.
Je protestais aussitôt en écrivant à mon député, qui se trouvait également être sous-ministre à l'environnement. Je lui expliquais que l'unique raison qui m'avait poussée à m'adresser au haut-commissaire britannique était que l'un des investisseurs du projet était Robert Maxwell, que je ne pouvais absolument pas joindre. Il était par ailleurs ridicule de prétendre que j'attaquais le gouvernement en posant une simple question. Je saluais à nouveau la fibre écologiste du président, du sous-ministre, assurant que c'était précisément parce que je partageais sa préoccupation pour l'environnement que j'avais tout fait pour alerter l'opinion sur les risques de la tour du Times. Loin de renier l'esprit du 25e anniversaire de l'indépendance du Kenya, avais-je poursuivi, j'avais agi dans l'esprit d'Uhuru, de la liberté. Le parc Uhuru revêt pour nous tous, Kenyans, une signification profonde et c'est cela qui m'oblige à me battre pour le défendre, afin que mes petits-enfants puissent un jour se promener dans les allées du parc et partager ce rêve de bonheur et de liberté. Je rêvais que ce n'était pas contre le complexe en soi que... je répétais que ce n'était pas contre le complexe en soi que je protestais, mais contre la construction à l'intérieur du parc même. Et, avais-je précisé, je n'avais aucune intention de fuir le Kenya, ni pour l'Europe, ni pour ailleurs. Le Kenya est ma patrie, ma place est ici, et c'est ici, au cœur du pays, que je souhaite reposer quand mon heure sera venue.
Voilà, avec ces paroles très belles, on va pouvoir comparer la réponse d'un des députés. Tu la trouves pas ?
Non, c'était ça. Hein.
Non, j'en ai pris d'autres. 272. Attends, mais on n'est pas loin. De toute façon, on n'est pas loin. Décidément, j'échappe pas. Où est-ce qu'il est ? On n'aura pas les horreurs de ce monsieur.
Non, on n'aura pas les horreurs de ce monsieur parce qu'en fait, je pense qu'elle les a résumées. Et elle a eu vraiment maille à partir avec les politiques pour défendre le parc, mais ils ont tous... Ils avaient tous évidemment des arguments commerciaux pour construire des bâtiments qui devaient procurer des revenus
Au dernier moment. J'ai rajouté au dernier moment parce que je trouvais que c'était vraiment bien, mais c'est raté. C'est raté.
Bon, quelle est l'issue du combat, alors ?
Quoi ?
Finalement, elle sauve le parc.
Elle a mis 2 ans, mais un beau jour, elle a vu que les palissades... On ne lui a jamais répondu, le président ne lui a jamais répondu, mais elle a vu les palissades tomber. Les palissades, ça fait pas penser à ce qui se passe à la plaine.
Ouais. Et, abattons les murs.
Et en fait, le parc a été quand même amoindri. Mais le projet a été supprimé, et notamment à cause des investisseurs qui se sont méfiés, parce que l'État se portait garant, mais il pensait que l'État était beaucoup trop fauché pour les rembourser. Galère, galère. Salut à Wangari Maathai, et nous vous disons à bientôt. C'est bientôt.